Depuis lundi 9 avril et jusqu'à vendredi, des étudiants de l'Université d'Orléans se réunissent pour manifester leur désaccord face au projet de réforme des universités porté par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Rassemblés sous la bannière COMOB pour Comité de mobilisation, ils accueillent toute la semaine des étudiants en salle 150 de l'UFR Lettres, Langues et Sciences humaines pour les informer sur ce projet. Ils y ont notamment monté mardi dernier un blocus. Nous sommes allés à leur rencontre pour nous aussi en savoir plus.
Pourquoi vous vous mobilisez contre ce projet de loi? Pour quelles raisons?
Parce que nous, on estime que l'université devrait être accessible à tous et que ce projet de loi contient une sélection, notamment à l'entrée de l'université, qui rendrait ça impossible.
D'accord.
On ne serait pas tous à égalité, ce qui n'est pas normal.
Un aspect de sélection de 1 que nous, on trouve assez discutable, mais aussi surtout des problèmes au niveau de Parcoursup, qui se vante d'être un parcours humanisant, puisque avec des CV, lettres de motivation, etc. Enfin, CV, c'est discutable, mais surtout lettres de motivation censées être lues par les facs, mais les faits sont tout autres, puisqu'en réalité, ces lettres de motivation et ces dossiers vont être notés, et c'est notre entrée dans des algorithmes de sélection. Et c'est une mesure parmi tant d'autres qui fait que ce plan étudiant est clairement discutable.
Et justement, cette information comme quoi les lettres de motivation vont être transformées en notes, transformées en chiffres dans un algorithme, d'où vous vient cette information?
Alors, cette information nous vient d'une part de la part de l'université, qui a été assez transparente là-dessus à ce sujet, puisqu'elle nous a dit clairement, nous n'avons pas le temps de lire des centaines de lettres de motivation, surtout qu'il y a un manque de personnel, un manque de moyens. Donc c'est très difficile pour eux.
Elle vient également des professeurs qui nous ont raconté, en fait, ils ont eu une formation pour Parcoursup pour savoir comment ça allait marcher, comment eux allaient devoir sélectionner les dossiers. Et c'est eux qui nous ont dit concrètement ce qu'ils ont eu à la formation. Et à la formation, on leur a appris comment transformer, comment noter les lettres de motivation et ensuite les rentrer dans les algorithmes de Parcoursup.
Donc quelque part, vous dénoncez une sorte de désinformation entre la réalité et ce qui a été dit sur le papier, c'est ça?
Exactement, parce qu'il est aussi dit que aux élèves et à leurs familles, on dit que Parcoursup va être beaucoup plus humain, qu'il y aura des lettres de motivation justement pour mettre l'accent sur ce côté humain entre professeurs et élèves, alors qu'aux professeurs on dit complètement le contraire en leur apprenant à utiliser des algorithmes et en transformant toutes les données en chiffres.
Et en soi, est-ce que le fait d'utiliser des lettres de motivation, si on ne prenait pas en compte le fait qu'ils soient transformés en algorithmes, est-ce que la lettre de motivation en elle-même pour vous est un bon argument, une chose bien?
Je dirais que la lettre de motivation, elle n'est pas forcément bonne parce que dans un sens, elle met en avant tout le côté un peu, on veut que les étudiants se mettent déjà dans la position de travailleurs, alors qu'ils n'ont pas la vocation, l'université n'a pas vocation forcément à mettre les étudiants dès leur première année dans cette situation de il faut rechercher le travail, il faut rechercher une productivité. Et donc du coup, les mettre les uns contre les autres dans cette situation.
Mais est-ce que l'université n'a pas justement ce rôle de commencer à amener l'étudiant à la vie professionnelle? Non? Oui.
L'université a en quelque sorte ce rôle, mais le problème c'est qu'il n'est pas suffisamment bien rempli pour moi, dans le sens où on nous apprend quelque chose qui peuvent nous être utiles dans la vie active, mais on ne nous forme pas exactement à la vie active. En tout cas, ça dépend des formations et ça dépend des licences qu'on peut faire.
Personnellement, je pense que oui, l'université propose des formations pour certains métiers, mais ce n'est pas la vocation du système scolaire français en général. Parce que certes, elle a vocation de formation, mais aussi d'éducation sur beaucoup de sujets. En université, on est beaucoup plus libre des débats qu'on peut tenir, des propos. On nous apprend à cultiver une réflexion. Et je pense que c'est aussi un des rôles de l'université. Et aussi être un endroit où on accumule des connaissances et des connaissances de culture générale qui peuvent nous servir dans notre vie active en tant que travailleurs dans n'importe quel milieu, mais aussi pour nourrir sa connaissance en tant que citoyen, en tant qu'acteur de la vie communautaire. L'université n'est pas juste un tremplin pour la vie active. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête.
Vous parliez tout à l'heure de formation. Alors dans le projet de loi, il y a quelques phrases, la façon dont c'est tourné, qui peut porter à confusion. J'aimerais vous demander quelques précisions. Par exemple, sera pris en compte le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et les caractéristiques de la formation. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, les acquis de sa formation antérieure? Est-ce que ce sont les notes? Est-ce que ce sont les commentaires des professeurs?
C'est un tout, je dirais. C'est un tout. Ça, dans les acquis de sa formation, on entend bien sûr les notes, mais également, par exemple, si la personne a eu recours au rattrapage, si cette personne a redoublé pour les licences modulables, si cette personne aura fait sa licence plutôt en 2 ans, 3 ans, 4 ans, et les avis des professeurs, etc.
À savoir aussi que pour ceux qui entrent à l'université et qui font leur dossier, on a mis quelques affiches dans la salle. En gros, en fait, il y aura des prérequis, c'est-à-dire que si un élève ne remplit pas les conditions nécessaires pour rentrer dans la filière, il y a des risques que ce dernier ne soit pas accepté. Des obligations de moyenne au bac, mais aussi probablement dans sa formation tout au long du lycée, notamment en année de terminale. Donc par exemple en géographie, minimum de 13 ou 14 à l'épreuve du bac ou ce genre de choses.
Et quelles formations seraient concernées par ces prérequis ?
Toutes.
Toutes. Toutes les licences sont concernées et techniquement... chacune propose un minimum 3 prérequis à être atteints par les étudiants, par les lycéens.
Justement, ces prérequis, où est-ce qu'on peut les retrouver ?
Alors, les prérequis de l'université, parce que aussi ces prérequis ne sont pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle des universités, parce qu'il va aussi se mettre en place un contrat étudiant-université. Donc chaque université aura ses prérequis, aura ses attentes vis-à-vis des élèves et pourra juger de façon... très très libre de la qualité du projet des étudiants et de la hauteur de la barre qu'ils mettent. Nous, on a justement les professeurs qui nous ont donné une liste qui est disponible dans la salle 150 de DFR LLSH, avec un petit peu tout ce qu'ils ont pu faire à leur réunion. Mais on a aussi, du coup, on s'est permis de faire des statistiques et justement d'interroger des élèves pour voir si eux, qui sont dans leur filière actuelle, répondaient déjà à ces caractéristiques, ou s'ils sont là, mais qu'ils n'auraient pas dû, selon cette loi. Donc les résultats, on va les avoir d'ici ce soir, demain, et on va aussi les publier dans la salle si ça vous intéresse.
Et ces statistiques ont été faites par rapport aux questions que vous aviez posées lundi, c'est ça ?
Par rapport aux questions qu'on avait posées lundi.
Est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements sur les types de questions, les questions que vous aviez posées ?
Alors en gros, en fait, on s'est très 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 basiquement basé sur les prérequis que les professeurs nous avaient donnés. On a voulu faire un questionnaire très rapide pour éviter d'handicaper les étudiants qui allaient en cours ou en partiel. On a pris les 3 à 4 prérequis qui nous avaient été donnés. Est-ce que l'élève a eu tant ou plus au bac ? Oui, non. Pour tous les prérequis, en quelle année ils sont, évidemment, pour avoir des informations sur qui ils sont, mais aussi, est-ce que vous avez déjà eu recours au rattrapage et à la compensation ? Et si oui, combien de fois ? Pour voir un petit peu si l'État vous considère comme étant en échec. Parce que sur le site du gouvernement, il y a aussi des petits graphiques qui nous montrent que 40% d'échecs dans les premières années, sachant qu'ils comptent dans les échecs, les redoublements et les changements de filière, après à voir si vous considérez ça comme étant un échec ou pas.
D'accord. Vous disiez que cette sélection va concerner toutes les formations. Il me semblait que ça ne concernait que les formations qui n'ont pas assez de places disponibles par rapport à la demande.
Alors, ça va se faire par rapport au nombre de places, évidemment, en priorité, mais en fait, ce qui va être très problématique, c'est que s'il y a assez de places dans les facs pour accueillir tout le monde, il y aura l'accueil de tout le monde. Mais ça va aussi rejoindre un problème, c'est que vu que les universités vont pouvoir moduler leurs critères et aussi moduler leur nombre d'étudiants venant d'autres régions et perdre un petit peu ce côté « tu viens de telle région, donc tu auras la priorité sur les universités de ta région », Paris, par exemple, toutes les belles universités du genre la Sorbonne pourra avoir un taux de 50% d'étudiants qui viennent de partout en France. Ils vont prendre tous les bons étudiants des autres facs et faire perdre de la valeur. Du coup, aux autres facs, il y aura une énorme compétitivité entre les facs et du coup, il peut y avoir une discrimination à l'emploi si jamais on voit que tu viens d'une fac qui est beaucoup moins cotée que celles qui sont à Paris. Et c'est complètement le cas de celle d'Orléans, parce que tous nos bons élèves vont partir sur Paris remplir les quotas. On va se retrouver avec tous ceux qui ont été refusés et on aura une réputation encore plus négative que celle qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Donc ça pose un vrai problème.
Mais il n'y a pas déjà cette concurrence entre les différentes facs ?
Il y a déjà.
Elle est principalement invisible, sauf lorsque, par exemple, on se met en face de l'employeur. Parce que, bien sûr, un employeur qui va directement voir notre CV, voir nos diplômes, va directement avoir les informations qu'il veut et va pouvoir juger en fonction des informations nécessaires, donc les informations qu'il a envie. Si, par exemple, deux candidats différents de nos jours, ça se fait encore. Enfin, ça se fait déjà. Si quelqu'un qui postule et qui vient de l'Université d'Orléans et a un diplôme qui a le même intitulé, les mêmes cours, les mêmes éléments, selon l'intitulé du master ou de la licence, et il se retrouve face au même à la même personne, mais qui vient d'une université parisienne et qui a le même intitulé, le même master et tout ça, il y a plus de chances que la personne qui étudie à Paris se fasse embaucher au compte fait qu'on a déjà cette invisibilité de cette discrimination.
Sauf que aujourd'hui les diplômes ont quand même exactement la même valeur peu importe l'université d'où on vient, même s'il y a cette sorte de discrimination invisible, alors qu'avec la sélection il y a le risque que ces diplômes n'aient plus la même valeur du tout.
D'accord. On a interrogé quelques étudiants qui étaient à la fac à ce moment-là et beaucoup parlent de que le projet de loi supprimerait les compensations et les rattrapages. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus à propos de ça ?
Alors, au niveau des compensations et des rattrapages, Madame Vidal se garde bien de s'exprimer sur la question et il y a même parfois des contradictions dans ce qu'elle dit, puisqu'au début du projet, elle a laisser entrevoir dans certaines interviews un peu obscures qu'il faut chercher, faut gratter pour trouver des informations là-dessus, mais en gros elle a laissé voir qu'elle était plutôt pour la suppression de tout ce qui était à rattrapage et surtout des compensations. Après, en ce moment elle a l'air de revenir sur ses propos, mais on n'est pas trop sûr. Et c'est clairement une question sur laquelle il faut s'inquiéter parce que ce projet de loi va surtout passer cet été. Et si c'était un projet de loi qui était si bénéfique que ça, pourquoi pas le faire passer quand nous on est tous là, disponibles et prêt à donner notre avis sur ce projet. Je trouve ça assez intéressant de voir que ça passe au moment où tout le monde est en vacances.
Le système est aussi assez insidieux vu qu'il parle de vu que le contrat étudiant université dont on parlait avant mentionne en fait l'idée de l'inscription par UE et non plus par licence. Donc par année de licence, ce qui veut dire que par exemple on pourrait définir que ce qui mènerait à la fin de la compensation, on pourrait définir qu'on s'inscrit pour un certain nombre d'UE et que toutes ces UE doivent être validées pour définir l'année et non plus une année est définie par la moyenne de ces semestres et la moyenne aussi de ces matières.
Parce que justement vous disiez à l'instant que ces déclarations, il faut les chercher. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'interprétation derrière ?
Sincèrement, je ne pense pas. Je trouve que les messages de Madame Vidal sont très clairs.
Alors, du coup, je voulais dire qu'il y a quelques semaines, peut-être un peu plus de 3 semaines maintenant, il y a un sénateur qui est venu, je ne me souviens plus de son nom, faire une conférence ici à la fac, à l'amphi. Genevois, je crois. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. J'étais l'une des seules, nous étions peut-être 5-6, et il a été fait mention justement de ces cas de rattrapage et de compensation. Donc il y a une volonté de vouloir masquer peut-être la vérité, histoire que ça passe comme ça. Voilà, ils n'ont rien à foutre. Et du coup, il ne faut pas oublier que ça reste quand même en débat au Sénat et qu'ils nous montrent bien ce qu'ils veulent qu'on voit. Voilà. On n'est pas parano, on ne veut pas mentir aux autres, on fait juste de la prévention. Donc on use des moyens qu'on peut pour essayer de sensibiliser un maximum d'étudiants. Voilà.
D'ailleurs, nos collègues de Tours nous ont dit que justement, on leur avait posé ces questions déjà avant que la sélection passe en tant que loi. Beaucoup de gens étaient assez sceptiques et leur avaient dit « Oui, mais ce que vous nous dites là, ce sera, vous nous dites que ce sera sûrement dans la loi, mais ça n'y est pas encore. » Et eux avaient répondu « Eh bien, on en reparlera quand vous verrez que c'est bel et bien dans la loi. » Et ça a bel et bien été dans la loi juste après. Donc c'était un peu...
Et quel serait l'intérêt... L'intérêt du gouvernement de justement supprimer les rattrapages et les compensations, puisque faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui ont leur année grâce à ça.
Les rattrapages, ça coûte beaucoup d'argent.
C'est cher
et élitisme. Cher et élitisme.
Enfin, dans le sens où l'élitisme voudrait que si on a besoin des rattrapages, c'est qu'on n'est pas forcément des bons élèves et que eux préféreraient avoir de très bons élèves qui n'ont pas besoin des rattrapages ou de la compensation pour réussir leur année. Leur but serait que on ait des bonnes notes à toutes les matières et que on ait nos semestres sans avoir besoin de passer au rattrapage ensuite.
Et on a pu avoir un contact avec les doyens pour lui demander un petit peu, oui, bah, on nous dit que les, enfin, surtout le président, un petit peu le doyen aussi, et on a eu confirmation que les rattrapages, c'est quelque chose qui, c'est des choses qui sont très très chères. On essaye d'avoir un petit peu des chiffres à mettre là-dessus, mais clairement, ils ont été très très explicites là-dessus. Ils nous ont dit, voilà, les rattrapages, c'est très très cher. Et vu que l'Université d'Orléans est en dette, ça arrangerait qu'il n'y ait plus de rattrapage et de compensation. Mais ce serait très très injuste au niveau des étudiants parce que, comme tu l'as souligné, on est beaucoup à en dépendre. Et c'est pas parce qu'on va en rattrapage qu'on est forcément mauvais. C'est pas parce qu'on utilise les compensations qu'on est forcément mauvais non plus.
Oui, mais toutes les universités ne sont pas forcément en dette comme celle d'Orléans. Là, on parle au niveau national, pas au niveau local d'Orléans.
C'est pour ça que c'est en réalité aux universités elles-mêmes de décider par rapport au rattrapage et à la compensation. Ce sera très probablement les universités qui décideront elles-mêmes si elles les suppriment dans leurs universités.
Donc il y aurait une université qui aurait toujours les rattrapages et les compensations et une autre université qui ne les aurait pas.
C'est possible. On peut pas vraiment vous dire si ce sera oui ou non, mais c'est possible.
Vu que très peu de communication est faite là-dessus, ouais. On peut que faire des suppositions. Donc on essaie d'être optimiste et de se dire que bah, y a certaines facs qui pourront essayer de le garder. Mais faut quand même garder à l'esprit que ça pourrait être supprimé dans la loi, en fait. Et pour toutes les facs et pas uniquement certaines, en fait.
Mais aujourd'hui, il n'a pas été dit explicitement que ce sera la fin des rattrapages et des compensations. C'est que des...
Non, pas encore.
C'est exact.
Pas en public.
En public.
En public, pas... Il n'y a pas une déclaration de fait, ça va être supprimé. Mais il y a des échos, il y a des propos qui ont été dits. Même si on ne peut pas le garantir à 100%, on est obligé de prévenir un minimum parce que... Enfin, c'est pas une fois que ce sera voté et qu'on sera en vacances, que personne n'aura pu manifester son désaccord, qu'il faudra se dire bah, c'est trop tard, en fait.
C'est ça, un vieux mieux.
C'est surtout essayer, ça. Enfin, c'est bon, quoi. Je veux dire, on n'est pas non plus des machines. Faut pas oublier que les étudiants, ils ont une vie, que les étudiants travaillent à côté de leurs études parce que on est précaire, on a besoin de travailler. On est énormément dans cette situation-là. Donc parfois on ne peut pas non plus se consacrer à 100% à nos études. Donc oui, parfois on fait des erreurs, parfois on se plante, parfois on a juste aussi nos problèmes, nos à côté. Certains diront que c'est pas une raison, mais en fait tout simplement on n'est pas des robots, on ne peut pas tout imprimer. En fait, on a parfois des niveaux différents en arrivant à l'université, on vient d'établissements différents avec des enseignements qui ont été aussi différents. Il y a des personnes qui viennent de bac généraux, d'autres qui viennent de bac pro ou d'autres de techno. En fait, on devrait être mis sur un même pied d'égalité et pas faire de la sélection parce qu'une personne... En fait, l'erreur, elle est tout simplement humaine. Moi, je suis dans une filière où ça va, je m'en sors, j'ai de la chance. Mais j'ai discuté avec mes profs de lycée pour avoir un petit peu leur parcours, etc., qui, eux, se sont plantés à la fac, qui ont redoublé, qui ont eu des sales notes, qui ont usé de la compensation, et pourtant, ça les a pas empêchés d'être profs, ça les a pas empêchés de réussir. En fait, je veux juste dire qu'il faut arrêter de dire il faut avoir ci, il faut avoir ça, nanani, nanana. Non, en fait, on n'est pas tous pareils. Certains ont besoin de plus de temps que d'autres pour assimiler certaines choses. On n'a pas les mêmes bases. Voilà, l'important, c'est faut pas qu'on se tire dans les pattes comme ça. L'important, c'est juste de s'entraider. Et l'important, c'est qu'on réussisse tous ensemble et que, qu'on ait les mêmes chances de réussite. Et au final, ce sera mieux que de se dire « Ouais, moi, j'ai réussi, mais au détriment des autres. » Moi, je suis pour un système où on s'élève les uns les autres et pas on se détruit.
Et comment, justement, si vous pouviez vous-même faire le projet de loi, qu'est-ce que vous feriez? Quel système vous mettriez en place pour pouvoir avoir cette
idée? J'ai ma petite idée, mais
je t'écoute.
C'est sûrement très certainement irréalisable dans notre système actuel, mais je peux comprendre la colère des personnes qui disent que le tirage au sort, c'est pas une solution. Maintenant, faut pas non plus voir la sélection comme une alternative correcte, parce qu'au final, ça crée également des inégalités. Même si le tirage au sort, ça touche très peu de personnes, ça a quand même touché une bonne partie des personnes. Maintenant, en fait, il faut trouver de nouvelles solutions par rapport à ça, une solution qui permettrait d'accueillir toutes les personnes qui souhaitent étudier à l'université, de pouvoir y accéder.
Augmenter les moyens financiers pour
pouvoir accueillir.
Peut-être, en fait,
il faudrait mettre
une solution plus humaine aussi.
Plus humaine, donc, mais forcément, comme ça revient à mettre plus de moyens dans les structures éducatives, donc que ce soit l'université ou même les lycées, là où, par exemple, c'est sûr qu'on va se retrouver en inégalité dans des lycées où il y a peu de moyens qui sont mis en place, où il manque d'enseignants. Par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas eu cours d'une matière pendant plusieurs semaines, ça arrive. Du coup, ça crée des inégalités, donc mettre plus d'argent là-dedans, dans les structures. Quoi d'autre pareil. Alors, il y a certaines personnes qui m'ont dit, oui, donc le problème, du coup, c'est qu'il y a des personnes, il y a des filières qui sont ultra chargées à l'université parce qu'il y a des personnes qui viennent dans une filière puis qui, finalement, changent, etc. Ouais, c'est vrai, parce que, en même temps, j'ai envie de dire, on est jeune,
c'est pas quelque chose de si problématique en soi.
Hein ?
C'est pas quelque chose de si problématique que
c'est
ça en soi.
C'est pas quelque chose de problématique, mais étant donné que c'est pointé comme un problème, il faut trouver des solutions, c'est-à-dire dans les lycées, dans les collèges, enfin, je suis désolée, on sait pas tous forcément ce qu'on veut faire de notre vie, et c'est normal, et comme t'as des personnes qui changent de profession au cours de leur vie, parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils savaient pas quoi faire à tel âge, puis maintenant ils savent ce qu'ils veulent. Donc, mettre plus de moyens aussi pour l'orientation des jeunes, parce que faire deux forums des métiers durant ton lycée, c'est pas quelque chose qui t'aide forcément, parce que t'es pris de cours comme ça face à des mots qu'on dit, des matières photographes. Ouais, c'est ça. Il y a de ça aussi. Il y a aussi, je me base un petit peu sur ce que j'ai vu au long de mon lycée, au long de mes études. Pareil, la discrimination, je sais pas si c'est un grand mot, mais le fait de qualifier des filières comme étant des sous-filières. Oui. Il y a ce fait aussi que du coup, tu te dis, je suis désolée, mais aujourd'hui, on va dans un lycée, qui est-ce qu'on va pointer? Ça va être les STMG. Est-ce qu'on va dire les STMG, c'est des classes de branleurs, c'est facile, nanani, nanana. Sauf qu'au bout d'un moment, faut arrêter ces préjugés-là, c'est pas vrai. Une personne en STMG a autant de chances qu'une personne qui a fait une filière L, ES ou S. Et du coup, ces personnes-là qui sont à STMG, peut-être que certaines personnes que j'ai rencontrées qui se sont dit « Non, je vais pas faire d'études parce que peut-être que j'ai pas les capacités, peut-être que nanana. » Enfin, il y a déjà de ça aussi, en fait. Il y a énormément de problèmes qu'il faut résoudre et tout ça, je pense que ça passe par l'éducation qui est un petit peu précaire ici. Il faut investir plus, en fait, c'est simplement.
Je tiens à ajouter que dans le plan étudiant, il y a aussi énormément cet aspect d'accompagnement, parce que ce problème d'orientation a été pointé du doigt, a été reconnu. Le truc, c'est que du coup, en fait, la charge de l'aide à l'orientation a été mis sur les épaules des professeurs, mais des professeurs qui n'ont pas forcément plus de temps pour enseigner et qui ont déjà du mal à terminer leur programme. Regardez le long de vos études, rares sont les professeurs qui ont réussi à finir leur programme en fin d'année. Et on leur demande en plus de caler 2 semaines pour l'orientation, à savoir qu'en plus, il faudrait 2 enseignants par élève pour aider à son orientation. Peut-être parfois, dans certains cas, si l'élève correspond aux critères, de l'aider encore plus. Et encore le fait d'aller chercher des tuteurs à l'université, pour des étudiants pour aider les lycéens dans leur orientation. Le truc, c'est que bah, les professeurs n'ont pas le temps, les étudiants à l'université n'ont pas toujours le temps non plus. Les professeurs sont sous-effectifs et pas forcément toujours bien rémunérés dans ce qu'ils font aussi. Et on ne peut pas non plus leur demander de tout faire.
Donc encore une fois, on se heurte à des problèmes humains et financiers.
Se heurte toujours à des problèmes humains et financiers. Et c'est assez inadmissible parce que on se base sur le fait que oui, ça va être une réforme qui va se valoir un petit peu sociale et humaine, alors que pas du tout. Mmh. On va juste demander encore plus d'efforts de la part de nos professeurs qui sont à bout, des efforts de la part des facs qui ne sont pas toujours en capacité de répondre, surtout la nôtre. C'est vraiment un gros problème et ça va nous plomber notre fac. Mmh. Ça va nous plomber notre fac de ouf.
Donc vos revendications, plus que de sélectionner, vous opteriez pour un accroissement des ressources pour pouvoir permettre à plus de gens d'aller à la fac plutôt que d'empêcher certains d'y aller.
Complètement, ouvrir l'éducation.
Tout simplement une meilleure gestion du budget qui est donné aux facs.
C'est carrément un consensus qui a été donné par plusieurs professeurs d'université, par plusieurs commissions qui parlaient justement de une montée des étudiants de 10% et derrière les budgets alloués à toutes les universités ne montaient même pas, ils descendaient. Et du coup, il y a eu un véritable problème à répondre aux demandes étudiantes, aux demandes humaines et aux demandes financières.
Surtout que le problème de place sert un petit peu aussi d'argument à cet argument de sélection. Le truc, c'est que c'est aussi clairement un problème de gestion du budget, parce que clairement, il suffirait juste entre guillemets d'embaucher plus de profs et de se servir de ce budget qui va être utilisé pour la mise en place de cette sélection pour, je sais pas moi, faire des trucs plus utiles comme la mise en place de bâtiments préfabriqués. Ok, c'est pas très esthétique vu de loin, mais c'est des places quand même et ça permettrait d'assurer plus de cours. Parce que des TD comme nous, on peut en avoir à l'LSH qui peuvent parfois finir à 50, c'est pas tenable pour nos professeurs. On en a eu un débat avec eux.
Des cours qui n'ont pas de professeur carrément.
Ah oui, aussi en LEA, on nous a dit qu'il y avait des semaines sans professeur de communication.
Par exemple, on peut prendre l'exemple des L3 LEA qui n'ont pas eu anglais économique pendant 6 semaines, car la professeure à la base était censée être en congé maternité, pas de remplaçant, alors qu'elle avait prévenu très en avance, elle avait prévenu minimum en novembre, que justement elle devait prendre son congé maternité. Résultat, 6 semaines de perdu, la professeure doit revenir alors que l'accouchement a peut-être eu lieu. Elle n'est pas forcément dans les meilleures conditions pour venir travailler. Et on lui demande de servir à terminer les études de ses étudiants alors qu'on aurait pu trouver une solution dès le début de l'année.
Mais rien qu'en L1, en LEA, on se retrouve pour le second semestre, on se retrouve sans cours de langue et culture. Ils ont complètement changé le programme parce qu'ils n'avaient pas assez de professeurs et que du coup, on a juste dû monter un dossier sans vraie structure, sans rien qui était prévu. C'était presque de l'improvisation, en fait.
J'aimerais juste revenir un petit peu sur les questions que tu m'as posées, surtout par rapport à la sélection, au fait de la suppression des rattrapages et tout, en mode est-ce que c'est vrai, est-ce que ça a été confirmé par des textes officiels, etc. Je tiens juste à vous dire que ça ne nous servira à rien de vous mentir, parce qu'on est dans le même panier, parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est de la prévention et qu'on veut agir dans l'intérêt de tous, et que ce serait pas profitable pour nous de propager de fausses rumeurs, en fait.
C'est ça. Mieux vaut se battre contre ça maintenant, même si on n'est pas sûr à 100% que ça arrive, plutôt que de se dire « Ah bah pour l'instant c'est pas dans les textes de loi, alors on va rien faire et que finalement ça arrive et qu'on n'ait rien pu faire contre. »
C'est ça.
Mais du coup, pour rebondir à ça, beaucoup d'étudiants pensent justement qu'il y aura la suppression des rattrapages. Beaucoup d'étudiants ont des présupposés de ce... Ils auraient entendu dire que les manifestants manifestent pour ça, alors que, à vous entendre, il y a une différence entre ce que eux pensent.
Beaucoup d'étudiants ne nous écoutent pas complètement, malheureusement, ne viennent pas à nos AG, etc., et ne se renseignent pas de leur côté. Donc, ils écoutent juste quand on leur dit « il risque d'y avoir ça », quand on leur fait un résumé de la loi, on leur dit « il va y avoir ça, ça et ça », et « il risque d'y avoir ça », ils le prennent pour un acquis.
Ils le prennent pour un acquis, sachant que le plan étudiant est quand même un ensemble de décisions et de propositions assez complexes et très très longs. Et quand ils viennent nous voir, ils ont tendance à nous demander les informations en résumé. Le truc, c'est qu'il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse, sur lesquelles on ne peut pas diffuser l'information sans être un petit peu plus spécifique, sans prendre un petit peu plus de temps d'en parler. C'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir la salle 150 et que les autres étudiants puissent se sentir libres de venir nous parler et nous poser plein de questions, parce qu'on répondra dans la mesure du possible, dans la mesure de ce qu'on sait parce qu'on n'est pas en mission, mais clairement on est là pour engager le débat et pas juste résumer point par point, parce que c'est très complexe comme